Voici une question qui fera réfléchir plusieurs croyants. Qu'est-ce qui doit nous motiver à servir le Seigneur? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que vous allez réellement aimer l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. En réponse aux questions que voici, est-ce qu'il y a toujours des résultats quand on prêche l'Évangile? Quand on est persécuté pour avoir prêché l'Évangile, est-ce que c'est un signe qu'on devrait modifier notre manière de le prêcher? Quel a été le meilleur sermon de l'apôtre Paul? Est-ce qu'on peut modifier l'Évangile selon notre auditoire? Est-ce que les paroles flatteuses peuvent apporter quelque chose de bon? Qu'est-ce qui doit nous motiver à servir Dieu? Est-ce que Jésus est comme une mère poule auprès des croyants? Quels sont les qualificatifs pour être un bon pasteur? Restez avec nous, la parole de Dieu va répondre à chacune de nos questions dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est avec reconnaissance qu'on vient devant toi pour te dire merci pour ta parole merveilleuse. Merci pour ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Merci pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Fortifie-nous par tes belles écritures. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que l'Évangile est d'origine divine. Elle n'est pas la création des messagers qui l'ont annoncé tel que Paul. Nous avons vu que l'Esprit agit avec puissance dans les cœurs et que son instrument est l'Évangile. Nous vous avons demandé si vous projetez l'image du Seigneur Jésus. En effet, si l'Esprit agit dans votre cœur, cela se voit. Nos églises devraient aussi être des modèles, mais peu le sont véritablement. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ que nous devons prêcher plutôt que de prêcher contre les autres. Nous vous avons expliqué que la foi et la repentance sont indissociables. La repentance sans la foi est inutile. Pleurer sur notre péché qui nous rend misérables ne donne rien si nous ne venons pas à Jésus-Christ afin qu'il purifie notre cœur. Finalement, nous avons souligné que le seul motif valable de servir dans l'Église est l'amour pour Dieu. Celui-ci cherche des cœurs qui l'aiment. Après la résurrection, Jésus a demandé à Pierre, celui qui l'avait renié trois fois, s'il l'aimait. C'était la condition essentielle afin que Jésus lui demande de paître ses brebis. Nous appelons l'enlèvement l'événement au cours duquel le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. Le croyez-vous vraiment que le Seigneur Jésus revient un jour pour son Église? Si oui, cela devrait avoir un effet sur votre attitude et votre comportement. Chers amis, débutons la lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 1. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. L'Évangile prêché donne des résultats. L'apôtre Paul dit, « Lorsque nous sommes venus vers vous, nous ne sommes pas venus vous enseigner une théorie. Nous ne sommes pas venus vous annoncer une doctrine nouvelle et originale qui n'a pas eu d'effet sur votre vie et votre comportement. » Nous ne sommes pas venus vous divertir pendant une brève période de temps pour ensuite aller présenter notre spectacle dans une autre ville. Le travail de l'apôtre Paul n'a pas été inutile. Il a donné des résultats. Lorsque Paul est venu à Thessalonique, sa prédication a touché de nombreuses personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Une église a vu le jour dans la ville. Paul n'a pas simplement présenté une théorie ou une philosophie. Mais il a proclamé un message qui a eu des effets à Thessalonique. Des gens ont reçu le Seigneur Jésus et ils ont porté la bonne nouvelle à leurs parents, leurs amis et leurs concitoyens. L'Évangile a atteint tous les quartiers de la ville en se servant des sandales des chrétiens. Ainsi, le message a pénétré le cœur, le foyer et la vie de nombreux Thessaloniciens. Verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Le mot grec traduit combat est agon, duquel nous avons tiré le mot français agonie. Lorsque Paul a proclamé l'Évangile à Thessalonique, cela a suscité des conflits et de l'agonie. Proclamons l'Évangile avec assurance et autorité. L'apôtre Paul dit qu'il avait subi des outrages à Philippe. Le chapitre 16 du livre des Actes en parle. Cependant, c'est avec assurance qu'il est venu à Thessalonique. Autrement dit, la persécution qu'il a subie à Philippe n'a pas étouffé son zèle. Il n'a pas modifié ou adouci son message pour plaire aux gens. Après son expérience éprouvante, il ne s'est pas dit « Je vais changer ma façon de présenter l'Évangile. Je serai plus diplomatique et moins direct en prêchant l'Évangile. » L'apôtre Paul n'a pas gardé sa foi pour lui-même. Il a proclamé l'Évangile à Thessalonique comme il l'avait fait à Philippe. L'apôtre Paul aurait pu facilement trouver des excuses pour justifier un changement de cap. Il aurait pu se dire qu'il était préférable de se faire des amis et influencer les gens. Cependant, une approche excessivement diplomatique et un message adouci n'étaient pas des tactiques employées par l'apôtre Paul. Il proclamait le message de l'Évangile avec assurance et autorité, et il ne laissait pas ses expériences déterminer le contenu et le ton de son message. Quel fut le meilleur sermon de l'apôtre Paul? Lorsque Paul est arrivé chez les Thessaloniciens, il a enseigné la parole de Dieu. Si l'on vous demandait de tous les sermons de l'apôtre Paul, lequel a été son plus grand, vous auriez sûrement de la difficulté à répondre, car plusieurs réponses sont possibles. Par exemple, il y a eu le sermon à Damas après sa conversion. Le sermon devant Sergius Paulus sur l'île de Chypre serait aussi un bon choix. Paul l'a prêché au tout début de son premier voyage missionnaire. Il faut aussi considérer son sermon à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Certains le considèrent comme son plus grand sermon. Il ne faut pas omettre les sermons à Athènes, à Éphèse, à l'école de Tyrannus et son sermon pour se défendre à Corinthe. Ils sont tous considérés d'excellents sermons. Certains pourraient préférer le sermon prononcé lors de son arrestation à Jérusalem, ou ceux pour sa défense devant Félix, Festus et Agrippa. Celui devant Agrippa est un chef-d'œuvre. Finalement, il y a eu son message d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse. Dans tous ses messages, l'apôtre Paul a présenté le Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Cependant, aucun de ses excellents sermons n'est son meilleur. Le meilleur sermon de Paul a été sa marche chrétienne parmi les Thessaloniciens. Son plus grand sermon n'a pas été livré avec sa langue ou avec sa plume, mais au moyen de sa marche chrétienne exemplaire. Ce n'est pas l'enseignement de la vérité qui a été le plus efficace, mais la démonstration de ses résultats dans la vie de l'apôtre Paul. La vie de Paul a touché ses auditeurs davantage que ses paroles. Il marchait selon le principe de Jacques, chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est dans les rues de Thessalonique qu'il a réussi à faire accepter son message. Votre plus grand sermon sera toujours votre vie. Chaque croyant est un prédicateur. Vous n'aimez peut-être pas que je vous dise cela, mais c'est tout de même vrai. Vous êtes forcément un prédicateur, car votre manière de vivre transmet un message aux gens qui vous entourent. Votre marche chrétienne et votre conduite enseignent aux enfants dans votre foyer. C'est probablement pour cette raison que de nombreux jeunes quittent leur foyer pour aller vivre dans les rues des grandes villes. Ils n'ont pas aimé ce que papa et maman leur ont enseigné alors qu'ils les observaient à la maison. Votre plus grand sermon sera toujours votre vie. Maintenant, l'apôtre Paul va nous raconter le sermon qu'il a prêché à Thessalonique, versets 3 à 6, et il va décrire la relation qu'il a eue avec les Thessaloniciens. Il a joué le rôle d'une mère en les consolant. Verset 7. Il a été comme un père en les encourageant à marcher d'une manière digne du Seigneur. Verset 11. Et il a été comme un frère en les encourageant de continuer à imiter les églises de la Judée. Verset 14. Poursuivons notre lecture de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. L'apôtre Paul n'a pas modifié le contenu de son évangile, ni adouci son message. Il n'a jamais modifié son message selon son auditoire. L'évangile ne peut pas être modifié selon notre auditoire. Il est déjà arrivé que des pasteurs prêchaient clairement l'évangile dans un endroit, à un certain auditoire, pour ensuite parler plus vaguement à un autre groupe, qui pourtant avait autant besoin d'entendre la vérité. Cependant, personne n'aurait pu accuser Paul de faire cela. Paul n'était pas motivé pour le gain ou l'amour de l'argent. Il n'est pas venu à Thessalonique parce qu'il pensait recevoir une bonne offrande et acquérir une certaine célébrité. Il ne venait pas afin que les gens le servent. Les motifs de Paul étaient purs. L'apôtre Paul a aussi prêché avec des méthodes honnêtes. Il n'a pas révisé son message pour plaire à la vieille nature de ses auditeurs qui avaient des préjugés et des passions. Il n'a pas cherché une méthode agréable à la nature pécheresse de ses auditeurs. Malheureusement, il arrive que des pasteurs modifient leur message pour ne pas déplaire à un membre qui est généreux avec l'Église. Dans une Église, un pasteur n'osait pas enseigner qu'un chrétien ne pouvait pas perdre son salut, car il ne voulait pas qu'un noyau de membres quitte son Église. La grâce de Dieu n'était pas enseignée dans toute sa richesse à cause de cela. Parfois, les motifs d'un pasteur peuvent être égoïstes. Un pasteur était entré dans le ministère simplement pour être bien considéré dans sa famille et dans la communauté. Ce pasteur négligeait les personnes pauvres de son église et consacrait beaucoup de temps aux professionnels sur lesquels il comptait pour affermir son église. Cependant, les pauvres ont quitté son église pour aller ailleurs et les professionnels qu'il espérait attirer ne se sont jamais consacrés au Seigneur. En fait, les pauvres se sont rendus très utiles dans les projets d'évangélisation des églises où ils sont allés. Quiconque enseigne la parole de Dieu doit examiner ses motifs. Le fait-il de façon malhonnête? Modifie-t-il la parole pour plaire à des non-convertis ou à des chrétiens non consacrés? Enseignons-nous pour nous faire des amis ou pour influencer les gens? Essayons-nous de prêcher fidèlement la parole de Dieu. Nous, les pasteurs, faisons tous des erreurs. Nous sommes toujours des êtres humains. Cependant, nous devons pouvoir dire au Seigneur que nous avons fait tout notre possible pour enseigner fidèlement et entièrement la Bible. J'aime ce passage de l'Écriture. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Lorsque je suis arrivé chez vous, je n'avais pas de motif caché. Je ne suis pas venu pour votre argent. Je ne suis pas venu pour profiter de vous. Je suis venu vous apporter l'Évangile et vous affermir dans la foi. » C'était cela mon but. Je cherchais à plaire à Dieu que je sers. Avec un tel motif, une personne navigue en sécurité. Oui, il peut y avoir des tempêtes sur la mer, mais le Seigneur accompagne ses serviteurs pendant celle-ci. Verset 4. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non, comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Parlons pour plaire à Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il n'est pas un débutant. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, ni à être populaire. Il ne cherchait pas son avancement personnel, ni le succès personnel. Lorsque Paul enseignait, il ne se préoccupait pas de ce que penseraient ses auditeurs, mais de ce qui plairait à Dieu. Paul a été approuvé par Dieu et il n'a jamais utilisé des méthodes frauduleuses ou détournées. Verset 5 de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. L'apôtre Paul parle avec franchise. Il dit qu'il n'est jamais venu chez eux afin de flatter qui que ce soit. Il n'a jamais cherché à séduire les riches, ni amadouer qui que ce soit. Les paroles flatteuses n'apportent rien de bon. Nos amis nous flattent parfois, car ils ne veulent pas nous blesser. Ils hésitent à nous dire la vérité. Il est plus facile de répondre à quelqu'un qui nous critique que quelqu'un qui nous flatte. Cependant, nos amis peuvent être plus dangereux que nos ennemis. Lorsqu'un ennemi me critique, j'apprends quelque chose à mon sujet. Les flatteries peuvent, au contraire, m'amener à me leurrer à mon sujet. Paul ne flattait jamais qui que ce soit. Des personnes riches sont manipulées par des gens qui les flattent. Si une organisation ou les dirigeants d'un programme ne les louent pas excessivement, alors ils ne sont pas intéressés à l'appuyer financièrement. Puisses-tu avoir pitié de toute organisation chrétienne qui compte sur des hommes friands de louanges exagérées pour son soutien financier? C'est une malédiction pour cette organisation. Quel est notre mobile pour servir Dieu? Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Les hommes qui ont vraiment à cœur la gloire de Dieu ne sont pas motivés par l'appât du gain. Par contre, ils peuvent parfois tomber dans d'autres pièges. Une personne peut convoiter des honneurs, la célébrité ou une position enviable. Il est nécessaire de demander à Dieu de sonder nos cœurs afin qu'il nous révèle toute convoitise dont nous serions inconscients. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. L'apôtre Paul n'a jamais recherché un poste intéressant ou des honneurs. Il n'a pas cherché à s'imposer. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Paul décrit sa relation avec les Thessaloniciens en employant une image qui révèle que celle-ci était positive. Il emploie l'image d'une nourrice. Paul a traité l'Église de Thessalonique avec la douceur d'une mère. Jésus-Christ s'est décrit avec l'image d'une mère poule. En pleurant sur Jérusalem, Jésus a dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes ?» et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Citation de Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jésus se présente avec plusieurs images dans l'Écriture. Il a affirmé être le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il protège ses brebis, et un jour, il les rassemblera, toutes dans la même bergerie où elles seront en sécurité avec lui. Il utilise aussi l'image d'une mère poule qui protège ses poussins. J. Vernon McGee racontait qu'il a été élevé en campagne sur une terre. À chaque printemps, une poule couvait des œufs, et avant longtemps, elle avait plusieurs petits poussins. Il n'y avait pas d'enclos spécialement pour les poules. Alors, celle-ci avait accès à un grand morceau de terrain. Parfois, la poule s'éloignait avec ses poussins. Lorsque la mère poule sentait une tempête venir, elle appelait ses poussins. Parfois, les oiseaux n'avaient pas le temps d'atteindre leur cabane. Alors, la poule couvrait ses poussins de ses ailes pour les protéger de la pluie. L'eau coulait sur le dos de la poule, mais ses poussins étaient en sécurité sous ses ailes. Souvent, le Seigneur Jésus nous invite à simplement se mettre à l'abri sous ses ailes. Cette poule illustre le ministère de Paul. Il aimait les Thessaloniciens comme une mère aime ses enfants. Nous trouvons encore des pasteurs comme cela aujourd'hui. Ils ne sont pas nécessairement de grands érudits, mais ils croient à la parole de Dieu et ils l'enseignent. De tels hommes pieux qui ont de l'expérience sont en mesure d'aider les gens. Tu n'as pas peur de t'asseoir avec un tel homme et de lui ouvrir ton cœur afin qu'il t'aide. Non seulement Paul a-t-il été un pasteur exemplaire à Thessalonique, mais il a enseigné aux jeunes pasteurs à suivre ses voies. Voici ce qu'il a écrit à Tite, un de ses compagnons d'œuvre. « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain honteux, mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite chapitre 1, verset 7 à 9. Le mot évêque signifie un responsable ou un superviseur. Une personne en charge d'une église devrait être irréprochable. Elle devait être appelée de Dieu, formée et faire tout son possible pour bien diriger l'église. Nous avons déjà souligné qu'un pasteur ne doit pas servir dans le but de s'enrichir, même s'il a droit à un salaire. Par contre, ce verset ajoute qu'il ne doit pas être ni arrogant, ni colérique, ni violent. Ces trois choses indiquent un manque de maturité spirituelle. Les chrétiens qui les pratiquent sont encore charnels. De plus, il ne doit pas être adonné au vin. Une personne qui abuse de la boisson a encore besoin d'apprendre à vaincre le péché dans sa vie au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Comment un pasteur qui pratique ces choses peut-il diriger un jeune chrétien sur le sentier de la marche victorieuse? Comment peut-il guider quelqu'un sur un sentier qu'il n'a pas parcouru lui-même? Un jour, un pasteur est allé à un congrès. Il a ramené un DVD qui traitait d'un péché particulier et qui contenait des témoignages de personnes qui avaient été libérées de ce péché sexuel. Après avoir montré le film à une réunion de prière, il a dit « Il est peut-être possible d'avoir la victoire sur ce péché après tout. » Sans s'en rendre compte, ce pasteur révélait qu'il était incapable d'aider un chrétien qui lutte contre le péché. Si vous ne croyez pas que la victoire sur n'importe quel péché est possible, alors vous n'êtes pas prêt pour le ministère. Relisez attentivement 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Du côté positif, le pasteur doit être hospitalier. Un homme hospitalier aime son prochain. Il désire aider les gens. L'hospitalité est une façon d'exprimer notre amour pour le prochain. Ensuite, il doit être ami des gens de bien. En général, un pasteur doit fréquenter des personnes dont la vie est exemplaire en général. Il peut avoir des amis non convertis qu'il voit à l'occasion. On ne peut couper tous les liens avec le monde. Cependant, un pasteur doit s'ouvrir à des chrétiens matures lorsqu'il a des problèmes. Les pasteurs sont des humains et ils ne sont pas épargnés de la souffrance et des problèmes qui sont le lot de tous les êtres humains. Parfois, ils ont besoin d'un ami intime. Modéré, juste, saint, tempérant. Notez que ce sont des fruits de l'esprit. En fait, cette liste de qualifications ne s'applique pas seulement aux évêques. Dieu demande cela de tous les chrétiens. Cependant, un évêque doit avoir ces qualifications puisqu'il doit guider les nouveaux chrétiens et les chrétiens faibles sur le sentier d'une marche victorieuse. Le fait que je ne sois pas un responsable d'Église ne m'exempte pas de porter ses fruits. Nous devons tous grandir spirituellement. Cependant, tant que nous ne l'avons pas fait, nous ne sommes pas qualifiés pour le ministère de pasteur ou d'enseignant. La Bible dit d'aspirer à cette tâche, à ce poste que le Seigneur lui-même nous confie par grâce. À nous de désirer la maturité spirituelle qui doit qualifier tout chrétien spirituel. Oui, à nous de nous confier en Jésus-Christ pour notre croissance spirituelle. Chers amis, prochaine émission, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 13.
Merci, Régent. Tu as dit aujourd'hui que les paroles flatteuses n'apportaient rien de bon. Et tu as même ajouté que lorsqu'un ennemi nous critiquait, on apprenait quelque chose à notre sujet. Mes amis, ça fait déjà plus de 29 ans que je suis chrétienne et je peux vous dire par expérience que les gens qui m'ont flatté ne m'ont pas aidé à grandir ou à m'améliorer. Bien sûr, il y a des gens qui m'ont encouragé, mais il y a une différence entre encourager et flatter. Quand quelqu'un me dit qu'il croit en ce que je fais et qu'il prie pour moi, bien ça m'encourage. Mais quand une personne me dit que je suis bonne, oh là là, ça crée un sentiment d'inconfort au-dedans de moi. Quand une personne qualifiée dans la matière apporte des critiques constructives au sujet de mon travail, soit dans l'évangélisation ou dans la louange, eh bien, ça m'encourage, ça m'aide à me perfectionner. Mais il y a aussi certaines personnes qui n'apportent que des critiques. Et ces personnes ne sont pas vraiment qualifiées pour apporter ces commentaires négatifs au sujet de notre travail. Sur le coup, ben, ça peut nous faire mal. Mais, personnellement, ça m'amène à examiner, à réviser le travail que j'ai fait. Et parfois, ils ont raison. Mais souvent, ils ont tort. Mais savez-vous ce que ça me donne de positif? Ça me garde dans l'humilité. Vous savez, quand on a un ministère auprès du public, c'est facile de tomber dans l'orgueil. Mais je suis convaincue que Dieu permet à certaines personnes, à leur insu peut-être, de nous aider à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes et aussi à garder nos regards sur notre Maître parfait, le Seigneur Jésus, qui, lui, a toujours été doux et humble de cœur. Quel bel exemple pour nous! Mes amis, le Seigneur se charge de garder ses enfants dans l'humilité parce qu'il veut qu'on vive dans la victoire et parce qu'il veut qu'on attribue toutes ces victoires, toute cette gloire à lui seul. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 8, il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Mon ami, est-ce que Dieu est glorifié dans ta vie? Quand quelqu'un te félicite pour un accomplissement quelconque, est-ce que tu vois réellement que c'est Dieu qui a accompli la chose en se servant de toi? Si tu es un enfant de Dieu, ça devait être normal que tu penses comme ça. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, j'aimerais t'encourager à demander humblement à Dieu de te sauver, de te donner la vie éternelle. Je dis humblement parce que si tu crois que tu peux te sauver toi-même, tu vas mourir un jour et tu n'iras pas là où Dieu veut que tu sois. Mais si tu reconnais que c'est par la foi en Jésus seul que tu peux recevoir le don gratuit de la vie éternelle, et si tu lui demandes de te donner ce cadeau, eh bien, tu seras aussitôt sur la voie de l'éternité, une éternité de bonheur, de joie et de paix dans la présence de Dieu lui-même. Dans le 18e chapitre du livre des Proverbes au verset 12, il est écrit qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais que l'humilité précède la gloire. Mon ami, je t'invite à venir humblement à Jésus. Ses bras sont grands ouverts pour t'accueillir. Demande-lui de te sauver. De te sauver de quoi? De te sauver d'une éternité sans Dieu, dans les flammes éternelles. Jésus a reçu la condamnation qu'on méritait tous pour nos péchés quand il est mort sur la croix. Alors, mon ami, je viens t'encourager, te supplier de venir à Jésus. Viens à Jésus, maintenant.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.